Bonjour à tous et voilà, je remercie Antoine qui nous a sollicité pour venir vous retrouver dans ces familiades et j'ai dit oui spontanément en disant je fallait quand même que je demande à Jean-Pierre mais je trouvais très très intéressant cette initiative des AFC de faire quelque chose pour les familles, pour leur donner du courage et leur donner des armes pour être forts dans la vie quotidienne parce que la famille est plus que jamais attaquée. Et que nous-mêmes, nous y sommes très sensibles, puisque depuis 4 ans à Chadenac, nous essayons de faire des semaines pour les familles, et qu'on voit à quel point c'est précieux, c'est apprécié, et voilà. Donc nous sommes là aussi dans ce même esprit de vraiment vouloir apporter du soutien et de l'espérance aux familles. Et donc nous allons essayer de vous donner un petit témoignage de la façon dont Dieu nous a comblés depuis notre plus tendre enfance, d'une façon parfois surprenante, mais voilà, c'est le témoignage qu'on veut donner aujourd'hui. En ce qui me concerne, j'ai perdu mon papa à l'âge de presque 15 ans. Nous étions 4 en 4 ans, maman avait 36 ans. Et j'ai eu l'impression que le ciel me tombait sur la tête, et je me suis dit, à quoi ça sert de vivre si on peut mourir aussi vite? Il est mort subitement. Donc je suis allée à Lourdes avec quelqu'un pour m'occuper des malades. Et là, en face de moi, il y avait un monsieur qui s'occupait de son épouse, qui avait une sclérose en plaques. Et chaque fois qu'il la prenait ou qu'il la déposait dans son lit, elle accrochait ses bras autour de son cou. Ils se regardaient. Ils avaient un regard de tendresse l'un envers l'autre. Et je me suis dit, si un jour je me marie, c'est ça que je veux. Voilà. J'ai eu de la chance.
Merci pour la sclérose.
J'ai eu la chance de ne pas avoir une sclérose en plaques et d'avoir quand même un époux avec qui nous pourrons nous regarder dans les yeux de cette façon-là, et c'est une grande chance. Voilà, donc je voulais juste témoigner qu'à ce moment-là, j'ai senti que certainement Dieu existait à travers l'amour de cet homme et de cette femme. Et quand je suis retournée à l'école, donc j'étais en seconde, en première, c'est Monseigneur Brincard qui était tout jeune prêtre et qui était notre aumônier. Et donc, il a eu à répondre aux questions d'une grande chippie qui voulait absolument lui démontrer que Dieu n'existait pas, parce que je pensais que Dieu existait, mais je voulais quand même être sûre. Donc, je lui posais des questions toujours plus tordues les unes que les autres. Et donc, un jour, il me dit « Soit, Laurence, je réponds à cette énième question. Est-ce que vous croyez que ça va vous aider à aimer davantage ?» Alors, je dis « Bon, j'arrête. » Voilà. Donc, Monseigneur Brincard n'a pas été trop rancunier, puisque on a continué à se voir quand on a été marié avec Jean-Pierre, que lui-même a eu aussi une expérience avec cet homme avant même qu'on ne se connaisse. Et quand il nous a appelés dans le diocèse, eh bien, voilà, c'était une joie de lui répondre oui. Je te laisse enchaîner.
Oui, bonsoir. Donc Jean-Pierre, ce qui est important en deux mots, de connaître l'historique du domaine de Chadenac, parce que je crois qu'il y a des choses qui ont été préparées bien avant nous. En 1870, il y avait les frères de Saint-François Régis, qui est le saint du coin, comme on va dire, hein, qui est enterré à la Louvet, qui ont monté une école pour les orphelins de la guerre de Prusse, là où ils ont récupéré les canons des Prussiens pour faire la statue Notre-Dame-du-Puy. Mais il y a eu beaucoup d'orphelins, effectivement, et ils ont fait une école agricole, et ils ont vécu avec eux dans des conditions précaires, et une école qui a été réputée, beaucoup de jeunes ont appris l'agriculture. Et vraiment, ils ont mis quelque chose de profond. L'UCPCV, l'Union catholique de plein air et des centres de vacances, c'est tout propre à la Haute-Loire. En 1936, c'est la réunion de tous les patronages catholiques de la Haute-Loire, qui faisait à l'époque le jeudi, et les week-ends, en sachant que dans chaque petit village, il y avait un prêtre, un vicaire et un séminariste. Vous vous doutez que ça a changé un petit peu. Maintenant, il y a un prêtre et il y a 20 villages. Voilà. Donc, le prêtre, le vicaire et le séminariste s'occupaient des jeunes, et l'été, ils se sont dit, on va faire des camps tous ensemble. Et ce domaine de Chadenac est arrivé en héritage à un chanoine de la cathédrale qu'il a donné à l'association jeunesse du diocèse. Voilà, donc les premières colonies pendant la guerre, après moult rebondissements, une association s'est montée, et un jour elle est venue voir Monseigneur Brincard, donc nommé évêque en
1988,
octobre,
Oui, 2 octobre 1988.
Donc, ils sont venus le voir en lui disant, voilà, mon père, il nous faut telle somme, parce qu'il y a des factures à payer, et puis quelqu'un pour gérer le truc, parce que nous, on se sent pas bien. Et donc, Mgr Brincard, qui a vu cette association, qui avait un souvenir, un souci de la jeunesse, moi, je l'ai connu à l'eau vive avec le père de Monténard, on a travaillé ensemble, après, il est venu comme aumônier dans des camps qu'on faisait, donc de Champagne, hein, Champagne-sur-Rhône. Il avait ce souci-là et il nous a appelés pour faire, et on ne savait pas. On ne savait pas ce qu'il fallait faire, pourquoi, comment. Lui non plus, il a découvert beaucoup de choses avec nous. Il nous a dit, là, il y a quelque chose à faire pour la jeunesse, pour les femmes. Enfin, même pas tellement les familles, parce que c'est après. Donc, on a découvert le domaine de Chadenac. Il y avait aussi une maison à Cap-Breton dans les Landes, un domaine en Corse, et une maison à Caire, qui est juste un petit village en dessous, mais tout ce qui était dans des situations obsolètes au niveau des normes de sécurité. On est tombé à une mauvaise époque, ou une bonne, puisqu'en 92, il y a eu l'écroulement des tribunes du stade de Furiani en Corse, où il y a eu 34 morts, et là, les commissions de sécurité ont vissé d'un cran, même plusieurs. Je peux vous dire qu'il y a eu des centaines de maisons qui ont fermé en France, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se mettre aux normes. Quitte à se mettre aux normes, j'ai dit, on peut pas vivre juste en faisant une colonie en juillet, une colonie en août. Excusez-moi, mais des centres de vacances, quand vous avez tout payé, il vous reste rien, vous pouvez pas investir. Donc on a dit, il faut qu'on puisse investir, accueillir d'autres groupes, des séminaires d'entreprise, des groupes de pèlerins, des familles, et ainsi de suite. Voilà. Donc on a fait les travaux nécessaires avec beaucoup de demandes de subventions, puisque non seulement il n'y avait pas d'argent dans les caisses, mais en plus on en devait, donc... Voilà. C'est vrai que ça m'a jamais inquiété. Je sais pas pourquoi, je suis pas un optimiste béat, mais justement, l'espérance est une sorte de force tranquille qui vous donne confiance malgré toutes les difficultés, mais qui vous apporte toujours une solution à un moment donné.
Voilà. Donc, en fait, on a la chance d'avoir pu mettre un peu en pratique cette parole qui nous a beaucoup inspiré au début de notre mariage. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Ce qui fait que même si après on doit quitter une maison, un pays, des frères, des sœurs, tout vous est rendu au centuple, et ça on l'a vécu à Chadenac. Quand Mgr Brincard nous a appelés, nous venions de consacrer notre famille au Sacré-Cœur de Jésus, et c'est lui d'ailleurs qui avait fait l'intronisation du cœur de Jésus dans notre maison. Et on avait une maison en Ardèche qu'on venait de finir de retaper, enfin qui était, voilà, dans laquelle on était très bien. Et ça a été une petite mort de partir ailleurs, parce qu'on se voyait très bien vivre dans cette maison cachée au fond des bois. On était super bien. Donc là, on est arrivé au puits quand il nous a montré le domaine de Chadenac. Un 5 janvier à 5 heures du soir avec les corbeaux croix à croix au-dessus et les volets verpisseux qui battaient au vent, on s'est dit bon. Et j'ai eu un très mauvais pressentiment en voyant la statue du Sacré-Cœur noire et branlante au fond du parc. J'ai envoyé un coup de coude dans les côtes de Jean-Pierre, j'ai dit je sens qu'on va pas y couper. Et effectivement, on a demandé quelques jours pour réfléchir, mais on a bien senti que c'est là qu'il fallait venir. Et comme le disait Jean-Pierre, on ne savait pas exactement ce qu'on allait faire, comment... Mais cette confiance dans la Providence a vraiment marqué notre vie. Et c'est aussi ça qu'on avait envie de vous partager ce matin. C'est que parfois, il faut y aller, mais on ne sait pas très bien où, comment. Et tout à l'heure, en avançant dans le couloir, je voyais la lumière qui s'éclairait au fur et à mesure qu'on avançait. Je me dis, c'est une vraie parabole, en fait. C'est lumière qui se déclenche quand on avance. Parce qu'en fait, le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus disait toujours « avancez ». La lumière se fera en marchant, mais il faut quand même avancer, quoi. Il faut faire ce premier pas, il faut être en mouvement. Et la lumière ne vient pas si on reste tranquille sur sa chaise, donc il faut quand même y aller. Et c'est un petit peu ça qu'on a vécu depuis qu'on est à Chadenac. Jean-Pierre étant très pragmatique, il a lancé les travaux essentiels pour relever la maison. Et après, ce sont les gens qui venaient, qui nous amenaient leurs enfants en vacances, qui disaient « Ah bah dis donc, c'est pas mal ça, une piscine, un court de tennis, mais nous on viendrait bien en vacances, vous avez jamais pensé à faire quelque chose pour les familles ?» Ah ben non, bah tiens, pourquoi pas. Voilà. Donc on a commencé à faire tout ce qu'il fallait pour être maison familiale de vacances. Et ensuite, on a rencontré Mgr Ravel, qui était à ce moment-là jeune prêtre à Champagne aussi, qui avait créé une association pour les célibataires, qui étaient à ce moment-là vraiment les grands oubliés de l'Église. Et il nous avait dit, mais ici, vous avez quand même un lieu où on pourrait peut-être faire des choses pour eux. Donc, en 2002, quelques années plus tard, on s'est dit, bon, on va leur ouvrir de la place ici. Et donc, on a commencé à faire des séjours solo. Et puis après, ainsi de suite, c'est les choses un peu... En 2008, il y a une espèce de crise qui a fait que les familles avaient moins de moyens, plus de difficultés à s'inscrire, etc. 2012, c'était la catastrophe. Donc, on a supprimé notre salaire un ou deux mois pour arriver à boucler l'année. Et on a eu l'opportunité de créer des stages en matinée avec des gens qui sont formés à la relation d'aide. Et on s'est dit, mais c'est génial. On fait venir ici des gens qui sont formés pour aider les gens, pour aider les personnes qui sont en recherche. Et donc, ça va considérablement alléger notre accueil de personnes solo ou autres. Mais surtout, ça fait arriver des gens de tout venant qui vont alléger ces semaines et qui vont faire que même quand les solos viennent en vacances à table, il n'y aura pas que des solos, il y aura des grands-pères, des grands-mères, il y aura des gens très jeunes, il y aura voilà, et c'est un peu l'ambiance un peu village famille qui petit à petit s'est formée comme ça. Est-ce que tu veux enchaîner sur
Oui, petite chose pour nous tous. Alors, on n'est pas arrivé à la fin, mais quand on relit un peu sa vie, vous dites, moi j'ai pris ça, et si je repars depuis mon enfance, je m'aperçois qu'à différents de ma vie, j'ai été préparé pour faire ce qu'on me demandait là. J'ai fait l'École nationale des chemins de fer, j'ai fait des diplômes dans la mécanique, l'électromécanique et tout, et dès que j'ai fini les études, j'ai démissionné pour devenir prof de gym. Parce que c'était complètement différent, hein, c'était les deux. Mais je ne me voyais pas fonctionnaire dans un atelier, j'avais besoin de la lumière, de voyager. Et 30 ans plus tard, à Chanac, j'ai eu l'occasion de faire tous les plans des travaux. C'est quand même 3800 m2 de plancher. J'ai fait tous les plans, vous imaginez, on a fait parce qu'au début, on a fait à l'économie. Hein. Voilà. Et ça m'a permis de conduire le chantier, ainsi de suite. Voilà, juste avant Chanac, on a monté une école européenne en Midi-Pyrénées avec le conseil régional, une école supérieure d'animation où j'ai fait les plans, j'ai suivi les travaux, un truc superbe. J'ai recruté les élèves, j'ai recruté les professeurs et j'ai fait 4 mois. Je me suis disputé avec le président, voilà, qui était juif et franc-maçon, donc il y avait 2-3 petits trucs voilà, qui ne marchaient pas. Voilà. Puis il n'a pas aimé quand je lui ai dit que lui, il présidait, que moi j'étais directeur, je dirigeais. Voilà. Il y a des gens, ils se vexent pour rien. Voilà. Donc, et quand on lit ça, et je suis sûr que si chacun d'entre vous, c'est des exercices qu'on fait, quand on relit l'histoire, j'ai appris telle chose à tel moment, qui m'a servi après pour ça, et ainsi de suite. Mais c'est après coup, vous dites, mais oui, je suis passé par là, mais c'était pas pour rien. Sur le coup, on comprend pas. On dit, à quoi ça va me servir? Moi, la mécanique générale, ça m'a permis de bricoler pas mal, plus que bricoler, de retaper des maisons, et puis à Chanac, de faire beaucoup de choses, parce qu'au début, il a fallu faire des économies énormes. Vous vous rendiez compte que chaque fois qu'il y avait un groupe, on n'avait pas les moyens d'embaucher un cuisinier à temps plein, il fallait qu'on trouve un cuisinier. Je peux vous dire qu'on peut écrire un bouquin sur eux. Il n'y a pas de problème. C'est sympathique. Hein. Donc voilà. J'ai eu la chance, pendant toutes ces années, on l'avait chacun, j'ai eu un DRH fabuleux. Un type gratuit, plein de bons conseils. Alors, oui, c'était mon ange gardien. Voilà. Je ne sais pas si vous faites appel à votre ange gardien, de temps en temps. Je vous assure, hein, la première fois que j'ai entendu ça, une conférence, puis il y avait un livre, je me suis dit, ça c'est pour les tout-petits, les mecs avec les ailes qui décollent, là, les rois du parapente. Voilà. Et puis, le prêtre qui en parlait, il n'avait pas l'air de rigoler, il était plein d'humour, mais il y croyait ferme. Et j'ai essayé, il m'a dit, teste. Quand tu vas, donc on a eu un tas d'entretiens, vous savez, quand vous êtes obligé de licencier quelqu'un, ou de l'embaucher, ou qu'il y a des problèmes... On y va parfois, reculons, on y va, mais on s'en passerait bien dans le conflit. Et souvent, j'ai demandé à mon ange gardien d'aller voir l'ange gardien de l'autre personne et puis de lui expliquer que bah, je ne lui veux pas de mal, et voilà, je n'ai pas de haine contre lui, simplement il faut qu'on trouve une solution où chacun soit resté digne. eh bien, à chaque fois, ça s'est bien passé. Alors, je peux vous dire que la personne qui était en face venait de façon agressive, régulièrement, et là, vous le testez, vous dites, bah, on va finir par y croire. Bon, après, il y a de très beaux livres hein, sur les anges gardiens qui ont été faits, mais je pense qu'on oublie souvent de leur demander un coup de main. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le DRH au top. Hein. Ça, c'est... Il ne coûte pas cher. Je l'ai licencié, ça ne m'a rien coûté.
Je te laisse le micro.
Ça m'a fait une rupture à l'amiable. Non, il est toujours là. Toujours.
Voilà. Donc, la chose qui, effectivement, en ce moment même... nous demande un grand lâcher-prise, c'est qu'effectivement, depuis un an, on travaille à la transmission de ce qui nous a été confié à Shadnak pour le laisser voguer sans nous. Donc là, on est en train de se retirer de cet espace et de cette mission pour laisser un autre couple prendre le relais. Donc ça demande beaucoup de lâcher-prise, là aussi, puisque ça nous a été confié pour un temps, et il faut savoir partir. Et... on a expérimenté particulièrement, je pense, cette année, à quel point le Seigneur répond de façon hyper précise à nos besoins, à la mesure dont on lâche vraiment et on lui dit vraiment, je te fais confiance. Donc, j'ai quelques exemples donc, du vécu de cette année. Comme je vous l'expliquais au tout début, on a vraiment senti qu'à Shadnak, il y avait quelque chose pour les familles et qu'il fallait passer la vitesse supérieure en proposant quelque chose de musclé pour leur permettre de reprendre des forces et d'avancer avec plus de confiance. Donc depuis 4 ans, pour la 4e année cette année, on a donc fait des vacances spirituelles pour les familles. Quand on s'est lancé, nous avions avec nous un prêtre de Notre-Dame de Vie, puisque nous sommes tous les deux foyer de l'Institut Notre-Dame de Vie. Nous avions 3 couples formés pour accompagner les familles qui étaient avec nous. Donc, c'était royal. Un couple qui avait accompagné pas mal de routes avec Notre-Dame de Vie, donc qui était hyper formé sur la catéchèse de Noël-le-Duc. Un autre qui avait un rôle important au patronage du Bon Conseil, etc. Des gens vraiment formés. Il y en a même un qui a passé son BAFA à l'âge de plus de 60 ans pour être encore plus... au service des enfants dont il aurait la charge. Donc c'était vraiment merveilleux. Et cette année-là, il y a eu très peu d'inscrits. On s'est dit, bon, on a peut-être mal communiqué, etc. On le refait une deuxième année, là, plus d'inscrits. Des difficultés, on n'avait plus de prêtre. Mais finalement, on a eu un prêtre juste 2 mois avant de commencer. Et la troisième année, on avait un prêtre qui avait dit oui tout de suite, mais qui à Pâques nous dit, ah ben non, finalement, je ne peux plus. Mais je vous envoie un confrère. Donc en fait, de toute façon, tout le temps, il a fallu vraiment faire confiance. Et là, pour cette 4e année, les 3 couples avec qui on a lancé ça, aucun ne pouvait. Aucun. Et on n'avait pas de prêtre non plus. Donc on se dit, bon, est-ce que c'est le signe qu'il faut arrêter? Je sentais bien que non, c'était le signe qu'il fallait juste faire confiance. Mais quand même, je dis au Seigneur, quand même, si on avait le prêtre, au moins... Parce que mettre sur le site, si on n'a pas le prêtre, c'est compliqué. Donc, une participante nous dit, j'ai 2 tontons prêtres, je leur demande. Donc, il y avait Monseigneur Scherrer, qui était surbooké, qui n'a pas pu dire oui. Et il y avait le frère François-Emmanuel, prieur des Carmes à Montpellier, qui a dit, ah, pourquoi pas. Donc, il a dit, pourquoi pas, on a parlé, il a dit, ok, je viens. Mais on a avancé sans avoir les couples pour nous aider. Et on a eu, vraiment, au mois de mai, ça devenait quand même difficile. Mais c'est J-2 mois, quoi. Enfin, c'était vraiment compliqué. Et là, on a accueilli un groupe de solos en ressourcement. Et il y a 2 jeunes femmes qui m'ont demandé de venir me parler alors que je bossais dans mon bureau. Oui, très bien. Il y en a une d'elles qui avait lâché la pharmacie pour se mettre dans l'éducatif et qui était prête à passer son BAFA pour venir nous aider pour la colo. Donc, il nous manquait quelqu'un. Génial. Et la deuxième, qui était instite en école Espérance Banlieue. Et quand je l'écoutais me raconter un petit peu ce qu'elle faisait, intérieurement, je dis, mais c'est peut-être à elle qu'il faut que je demande pour la pastorale. Donc, à la fin de de notre entretien, j'écoute, j'ai un truc à te demander, là, tu vois, on n'a pas encore complètement toute notre équipe. C'était moins qu'on puisse dire pour l'été. Est-ce que tu accepterais de venir pour la pastorale? Elle me dit, je discerne et je te dis ça dans 2 jours. Elle a discerné, elle nous a dit oui. Et puis voilà. Et en fait, on a eu encore une autre personne qu'on aime beaucoup qui nous a dit oui aussi. Donc on s'est dit, on est génial. Et 5 jours avant, cette personne qui était géniale et on était trop contente qu'elle rejoigne l'équipe, a eu un empêchement impossible de venir. Donc vraiment, jusqu'au bout, en fait, il a fallu faire confiance. Donc pourquoi elle n'était pas venue? Je me demandais ce que ça allait relayer, ce que ça allait... bien, pourquoi en fait, j'ai demandé à Jean-Pierre de s'occuper lui-même de 18 enfants de 6 à 12 ans, alors qu'un autre... un autre s'occupait d'un autre groupe de 18...
Il y avait 75 gamins.
Voilà. Il y avait quand même 75 enfants, dont 12 de moins de 2 ans. Et là où la providence est très bonne, c'est qu'il y a un couple qui a accepté de venir nous aider, où elle est assistante maternelle infirmière, une grande expérience des enfants, et elle a accepté. Donc j'étais rassurée, parce qu'en fait, c'est le point le plus névralgique. Les bébés... on ne peut pas suivre une retraite tranquille si on n'est pas tranquille pour ses bébés. Donc là, vraiment, j'ai senti que le bon Dieu nous bénissait et que de toute façon, le reste allait suivre. Voilà, donc on avait quelqu'un pour les bébés. Donc, bref, tout ça pour vous dire que c'est un acte de confiance sur un acte de confiance qui fait qu'on a la lumière, mais pas tellement longtemps à l'avance. Voilà.
Oui, ce qui est bien, c'est de faire la différence, je l'avais noté. Bon, le but, c'est pas de faire un topo sur l'espérance. Vous pensez bien qu'il y a des centaines de gens qui sont beaucoup plus capés que nous et compétents, mais de faire la différence entre l'espoir et l'espérance. Et l'espoir, on va dire, bon, quelqu'un qui est parti, on a l'espoir qu'il revienne. Tiens, mon fils passe le bac, j'ai l'espoir qu'il réussisse. Voilà. C'est assez humain, assez matériel, c'est assez court. Alors que l'espérance, c'est une sorte de force tranquille qui est lié effectivement à la foi, puisque c'est une vertu théologale aussi, mais c'est, plus on a la foi, je pense, plus on a d'espérance. C'est l'espérance du chrétien, c'est qu'il a l'espérance de la vie éternelle. Mais cette espérance de dire, ce que je fais, je coopère, c'est pas mon œuvre, si c'est le bon Dieu qui a voulu ça, je fais tout ce que je peux à mon niveau, mais voilà, il y a quelque chose qui est une force, hein. Mitterrand l'avait pris à son compte, je crois, la force tranquille. Voilà, on va prier pour lui. Voilà, ça c'est important. Et l'autre chose, l'espérance n'enlève pas les épreuves, les difficultés, les contraintes, beaucoup de choses. Mais, je ne sais pas comment vous dire, vous sentez que vous êtes sur les rails et que de toute façon, vous avancez, voilà, avec la lumière sous vos pas. Vous êtes coopérateur, hein. Ça, c'est pas le tout de rester assis sur sa chaise et de prier toute la journée, c'est très bien. Mais si vous faites rien, ça se fera pas non plus. Le Christ a besoin de nous. Il aurait pu prendre plein d'autres couples, d'autres personnes. Ils auraient fait la même chose, mieux, moins bien, différemment, ainsi de suite. Voilà. On s'est vraiment senti comme des moyens, des outils. Le Seigneur voulait ça à travers l'éclairage de Monseigneur Brincard, qui avait cette vision. Parce qu'il savait pas plus que nous si on était, il savait pas ce qu'il fallait faire, comment, pourquoi, ainsi de suite. Mais lui, pareil, il avait vu la statue du Sacré-Cœur, donc là, de toute façon, vous pouvez plus discuter là. Voilà, vous êtes cuit. Donc c'était comme ça. Mais je crois donc les anges gardiens et puis un patron aussi pour l'éducation. J'étais toujours très, j'ai fait des choses sur lui, sur Don Bosco, voilà. Sur le plan éducatif, c'était quand même quelqu'un qui a fait du bon travail. Les frères de Saint-François-Régis, quand ils ont monté cette école pour les orphelins, ont fait exactement ce qu'a fait Don Bosco. Donc, vous voyez, dans cette maison, il y avait du sang et des larmes et plein de choses qui fait que... Parce qu'ils ont été chassés par la loi de 1905, ces frères de Saint-François-Régis, et ils sont partis au Canada. Vous voyez, mais dans la douleur, hein, parce que tous les paysans de la région voulaient qu'ils restent. Et ils sont quand même, et je pense qu'ils ont semé quelque chose. Et ce que nous a expliqué Monseigneur Brincard, c'était pas juste gérer une maison, vous voyez ce que je veux dire. C'était aussi mettre une âme pour que les gens qui viennent bien se ressourcent, trouvent la paix. Enfin, voilà, c'est tout ça.
Alors, en parlant de la lumière sous nos pas, je disais qu'à partir de 2013, on a mis en place des sessions en matinée qui permettent aux gens, de tout en venant en vacances, d'avancer dans la connaissance qu'ils ont d'eux-mêmes, d'éviter de toujours faire des cercles vicieux où on retombe toujours dans les mêmes travers, on a l'impression de jamais s'en sortir, on voit pas le bout du tunnel, enfin. Donc là, on voit repartir quand même des gens redressés, qui arrivent très fatigués et qui repartent en fin de semaine avec quand même un visage lumineux, reposé, enfin, c'est quand même très gratifiant. C'est vraiment, pour nous, on a eu beaucoup de chance de vivre ces expériences-là, de voir comment on peut passer de la fatigue au repos et au ressourcement profond. Donc, en ça, on a été vraiment hyper bénis. Et ce que j'explique quand on fait aussi des stages BAFA avec les jeunes qui veulent devenir animateurs, je dis, vous avez remarqué sans doute que dans la vie, les gens les plus heureux, ce sont pas ceux qui ont pas d'ennuis. Les gens les plus heureux, ce sont ceux qui ont des ennuis, mais qui savent comment les gérer. Et en fait, ça, on peut vraiment témoigner avec Jean-Pierre que des ennuis, on en a eu quand même pas mal en 25 ans à Chadenac.
34
déjà ? On compte plus. Ouais, 34 ans. Ça fait 34 ans qu'on est à Chadenac. Bon, très bien. Je sais plus compter. Et donc, on est quand même émerveillés. Mais vraiment émerveillé de voir que c'est vraiment le bon Dieu qui conduit et qui donne à chacun ce dont il a besoin au moment où il a besoin. Donc, on ne s'est pas dit un jour, alors on se pose autour d'une table, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme stage, qui serait bon, etc. Ça s'est pas passé comme ça. Ce sont des gens qui viennent se reposer à Chadenac, qui disent, ah, mais dis donc, mais c'est extra ce lieu. Je pourrais pas animer un stage de ceci ou de cela. Ben, pourquoi pas? Et il y a 2 ans, il y a une personne qui est venue faire un stage de danse et qui a la veillée autour du feu le vendredi soir, me dit, est-ce que je peux faire une danse d'Israël autour du feu? Intérieurement, je me dis, waouh, c'est risqué. Mais je me suis dit, laissons faire pour voir. Donc, très prudente, elle dit, vous allez tous sortir des bancs pour qu'on soit à l'extérieur du cercle. Je dis, ça, c'est bien vu. OK. Personne ne va tomber dans le feu. Et c'était juste extraordinaire de voir la grâce et l'harmonie qu'elle est arrivée à mettre entre des personnes qui ne se connaissaient pas forcément. Il y avait des familles, des solos, des personnes âgées, des gens qui étaient en stage, d'autres qui étaient juste en vacances. Et c'était vraiment extrêmement, comment dire, réjouissant et même prophétique. On avait l'impression de voir une scène qu'on pourrait vivre au paradis, vous voyez, où les gens louent le Seigneur d'un même mouvement en y joignant les gestes. Je me suis dit, vraiment, cette femme est exceptionnelle. Quand elle m'a demandé si elle pouvait venir faire un stage, j'ai dit, bah, et comment? Donc, ça fait 2 fois qu'elle vient faire des stages de danse libre et danse d'Israël. Et il émane d'elle une puissance et une grâce qui viennent d'ailleurs. Donc, ça, vous voyez, c'est hyper réjouissant.
Voilà. Au début, on a accueilli un mouvement qui était ici, là. Et ils ont fait un week-end spirituel. Et en partant, ils ont oublié ils avaient amené le Saint-Sacrement.
Le prêtre ne l'a pas enlevé.
Le prêtre ne l'a pas enlevé. Mais c'était. Donc, nous, on appelle l'évêque pour lui dire, on a le Saint-Sacrement, il faudrait venir le chercher, voilà, ça peut pas. Et là, Mgr Brincard nous a dit, non, non, vous le gardez. Mais il a dit, attention, hein, vous le laissez jamais seul. Ouais, Mgr Brincard, quand il était... Bon, maintenant, on fait partie des foyers de Notre-Dame de Vie où il y a un engagement à l'oraison. Voilà, bon, on va vous le dire, c'est simple. Et on s'est engagé d'abord 1/4 d'heure, 1/2 heure et maintenant 1 heure par jour. C'est beaucoup. Des fois, on est des spécialistes de l'oraison, d'odoraison. Ouais. Et puis, pas toujours l'été, pas toujours 1 heure. J'espère que le bon Dieu n'a pas un chronomètre et qu'il compte tout. Mais c'est ça qui porte la maison, je vous assure. C'est ça qui porte la maison. Après, l'idéal, ce serait de commencer toutes les journées par ça, à 6h30 du matin ou 7h. Voilà, moi je suis plutôt du soir, donc c'est plutôt à 23h ou minuit, mais bon, l'essentiel c'est de le faire, et c'est ça qui tient, vraiment, c'est nous on est salariés, on va partir avec notre crayon et notre gomme, et nos affaires, ça appartient à une association, ce qu'on a cherché c'est que ça puisse continuer, parce que toutes les familles en ont besoin, les jeunes aussi dans la formation d'animateurs, les camps, et puis on reçoit des pèlerins, des séminaires, des gens qui viennent des fois, parfois, pour autre chose. On fait des sessions Saint-Hildegarde. Saint-Hildegarde, à un moment donné, était très à la mode dans tous les mouvements un peu on appelait ça
New Age et bio-écolo.
Les gens connaissaient Saint-Hildegarde juste pour
ses tisanes.
Des tisanes, des plantes alimentaires. C'est pas terrible. Hein, ça. Les poutres. Voilà. Ah, et les poutres de Saint-Pitre. Donc, et ces gens-là sont venus là et ils ont trouvé autre chose, parce que Saint-Hildegarde, c'est bien autre chose que juste les plantes. C'est un message spirituel, mais fabuleux. Et même la musique qu'elle a écrite, il y a tout, quoi. Donc on fait des stages où il y a tout ça, et des gens qui vous disent, qui sont venus voir Laurence en lui disant « Ça fait 40 ans que je tourne dans le monde, j'ai tout essayé, le bouddhiste, l'hindouiste, les sectes et tout. » Là, j'ai trouvé. C'est ça. C'est là où est la paix et où est le chemin. C'est des stages comme ça qu'on va peut-être revenir animer à Chamnac, parce que nos successeurs, c'est un peu long. Il y a 10 intervenants, il y a des médecins, il y a vraiment des choses. Et il y a des ressourcements physiques et spirituels à l'occasion de ces stages qui sont extraordinaires.
On appelle ça d'ailleurs plutôt des sessions de ressourcement qui se font en silence. Et on repère à quel point le silence est reposant. Et effectivement, c'est une dame du puits qui nous a dit, pour Hildegarde, « Écoute, Laurent, j'avais essayé plein de choses. Je viens de faire vraiment une... de suivre des conseils de Saint-Hildegarde pour essayer de guérir mes migraines, mon manque de sommeil, etc. Ça m'a fait beaucoup de bien. Mais du coup, j'ai aussi entendu ses enseignements, enfin les enseignements qu'elle veut nous transmettre. Et ça me semble très prophétique pour notre temps. Donc on a eu la chance de rencontrer Pierre Dumoulin qui, lui, s'occupait d'une maison qui s'appelle Roquestello dans le sud. Et c'était le lieu qu'avaient choisi des gens qui aimaient bien Saint-Hildegarde pour faire des universités d'été sur Saint-Hildegarde. Lui s'est dit « Ouh là là !» Il faudrait quand même voir ça de près, parce que Saint-Hildegarde, c'était quand même une abbesse bénédictine. Je ne voudrais pas qu'ils disent n'importe quoi. Alors, je vais leur dire oui, mais à condition que je donne des enseignements spirituels de Saint-Hildegarde. Donc, c'est comme ça qu'ont commencé les universités de Saint-Hildegarde à Roquestello il y a assez longtemps, une grosse vingtaine d'années. Et nous, ça fait maintenant un peu plus de 10 ans, ça fait 14 ans que nous faisons des sessions de Saint-Hildegarde. Et effectivement, nous avons la grâce, je crois, de découvrir à chaque fin de soirée, fin de session, des gens qui viennent, qui témoignent soit d'une guérison physique, soit d'une rencontre spirituelle, soit de guérison d'autres choses. Enfin voilà, il y a vraiment des témoignages que ça tombe à pic. Voilà.
Alors, donc de l'humour là. Ouais. Voilà.
Alors cette année particulièrement pour la passation, nous avons dû faire des actes de lâcher prise. Assez répété, tout au long de la journée. Donc, peut-être que certains ont entendu parler de la neuvaine qui ne rate jamais, de Don Dolindo au cœur de Jésus. Don Dolindo était le père spirituel du père Padre Pio, donc c'est quand même quelqu'un qui a une réputation de sainteté, et qui disait qu'effectivement, si on s'abandonne à Jésus, si on lui fait vraiment confiance, et qu'on lui dit que c'est à lui de s'en occuper, il le fait. Et donc, le Seigneur avait dicté à Don Dolindo des phrases qui sont dans cette neuvaine où il se plaint que parfois, on veut bien tout lui donner, mais enfin, on veut bien récupérer un peu et continuer à s'en occuper un peu. Et il dit dans ces cas-là, vous ressemblez aux petits enfants qui tournent autour des jambes de leurs parents et qui les empêchent de bien faire ce qu'ils ont à faire. Donc, en fait, on essaie de se laisser faire par le bon Dieu et de ne pas trop lui tourner autour des jambes pour qu'il puisse bien faire ce qu'il a décidé à Chadnac.
Il dit la phrase.
Donc la phrase c'est « Mon Dieu, j'ai confiance en toi, je m'abandonne à toi, et en pensant aux soucis qui nous prend la tête, je te demande, c'est à toi de t'en occuper, c'est à toi de t'en occuper. » Et une fois qu'on a dit « c'est à toi de t'en occuper », eh bien, on doit accompagner ce geste d'une grande foi et de vraiment faire confiance qu'il va s'en occuper. Et ce dont on peut témoigner, on est à la fin de la saison 2024, on avait beaucoup d'inquiétudes qui aurait pu être légitime sur plein de choses à Chadnac pour cette année. On peut juste témoigner que, à force de dire « c'est à toi de t'en occuper », on a vu qu'il s'en est bien occupé et qu'on est dans la gratitude. Et que la gratitude, ça ouvre le cœur, ça dilate, ça rend joyeux. Et que si on vit une minute après l'autre, en faisant cet petit acte de foi, eh bien, Dieu est grand, Dieu exauce, Dieu nous comble. Voilà.
Voilà. Voilà, bien. J'ai fait aussi 7 ans aux fondations Raoul Follereau. Vous avez quelqu'un là qui a un super t-shirt. Voilà. Ça aussi, c'est un conduit. et j'ai fait des conférences, et c'est à l'occasion d'une conférence sur Raoul Faudreau à Valence que j'ai rencontré Laurence. Voilà. Donc,
tu écris droit avec des lignes courbes.
Voilà, c'est ça.
Exactement.
Non, non, mais souvent, cette confiance comme ça, sans... Et c'est après, quand on relit l'histoire, où on a une grosse difficulté avec quelqu'un, vous arrivez à un licenciement, tout ce que vous voulez, mais par ce fait-là, vous vous retrouvez avec quelqu'un d'autre qui, effectivement, a été presque appelé pour venir là, et après coup, vous vous dites, mais voilà, mais si j'avais pas eu cet ennui avec lui, lui, il serait pas là. Alors, sur le coup, ça vous fait râler, hein, parce qu'un licenciement n'est jamais très agréable à faire, surtout quand c'est un poste important. Mais voilà. Donc, c'est facile à dire maintenant. Sur l'instant, c'est plus difficile. Mais avec ces entretiens de licenciement, j'avais mon DRH avec moi. J'avais mon ange gardien. Et souvent, quelqu'un qui rentrait dans la pièce tout en force, aigri, agressif, et ainsi de suite, était assis... Je le regardais, j'attendais que mon ange gardien fasse le boulot, quand même. Là, et d'un seul coup, on s'est mis à parler paisiblement. Il a reconnu un certain nombre de choses, moi aussi, et puis on a trouvé un arrangement, alors que l'entretien me prenait la tête depuis plusieurs jours. Donc, souvent, quand j'ai fait appel à mon ange gardien, il y a beaucoup de choses. Il va voir l'ange gardien de l'autre. Ils vont s'expliquer tous les deux. Voilà.
Alors, je me rends compte qu'on a parlé beaucoup de notre mission à Chadenac, parce que c'est aussi pour ça qu'on a été appelé ici. Je voudrais juste rajouter qu'on a eu la chance d'avoir 6 enfants et qu'on est grands-parents. Et que quand les gens nous demandent, alors, la retraite, vous allez faire quoi? Alors, je pense qu'on aura la lumière sous nos pas, comme dans notre vie. On ne fait pas de projet. On pense que le Seigneur a des projets pour nous et on va les découvrir au jour le jour. Mais on a beaucoup de chance de pouvoir se dire qu'on aura du temps pour accompagner nos enfants et petits-enfants, parce que je pense que plus que jamais, l'entraide générationnelle est très importante dans les familles et que c'est merveilleux quand on peut bien s'entendre avec ses enfants et ses petits-enfants.
Oui, ce que je voulais dire aussi, quant à Chadenac, avant, pendant ou après, je vous le dis tout de suite, si vous vous engagez dans la consécration, si vous vous engagez au Christ en disant « c'est à toi d'y aller », il y en a un qui va se déchaîner, hein. Puisqu'on parle de Dieu, il y a le diable existe. Et nous, c'était un classique. Juste avant d'avoir un groupe, il se déchaînait sur des choses matérielles, spirituelles, psychologiques et tout. On se dit, mais d'où ça sort, ça? Là, on se disait, ah, il va se faire quelque chose de bien après. Ou inversement, quand il y avait un séjour avec des gens qui repartaient ressourcés et gratuites, on baissait la tête, on se disait, qu'est-ce qui va nous tomber dessus, là? Tu vois, c'est, voilà, ça ne manquait pas. Et on avait la solution quelques temps après. Bon, des fois, on disait au bon Dieu, ça serait bien de nous envoyer la solution avant, mais oui, non.
Mais voilà, un truc complètement exceptionnel. En début de saison, notre chambre froide qui nous lâche. C'est vraiment génial. Et là, le cuisinier pense à... Il avait pris le 06 du dépanneur qui était venu pour faire la maintenance. Il l'appelle sur son 06. Le type, il habite à 5 km de chez nous. Il dit, bon, écoute, c'est le week-end, mais je viens voir ce qui se passe. Et il avait dans son camion... la bonne pièce. Vous voyez, donc en fait, il y a l'ennui, mais il y a la douceur de la Sainte Vierge juste derrière. Quand on a eu l'incendie à Chadenac en 2006, il y a eu un énorme incendie qui a détruit la totalité d'un bâtiment où il y avait absolument toutes nos archives et tout le matériel d'entretien de Chadenac et puis notre grenier personnel. Donc on a fait un petit détachement. Voilà. Donc il y a eu cet incendie, mais ça n'a pas brûlé tout Chadenac. Ça a été circoncis à un bâtiment qui nous a pas empêché de continuer et qui nous a permis, cet incendie, de dégager un espace. On a réfléchi pendant 3 ans et puis on a eu l'inspiration pour créer la salle Notre-Dame-du-Puy, qui est une grande salle de 200 mètres carrés dans laquelle maintenant nous faisons toutes nos sessions. Vous voyez, donc chaque fois qu'il y a un truc qui est vraiment embêtant...
S'il n'y avait pas eu cet incendie, d'ailleurs l'assureur... J'avais un petit doute, savoir si c'est pas moi qui l'avais fait. C'est-à-dire 2 mois avant, là, on avait un domaine en Corse et le FLNC, le Front National de Libération de la Corse, l'a fait sauter pour récupérer le terrain. Le 1er juillet, c'est passé à TF1. Le 5 juillet, et on avait 200 adolescents inscrits pour l'été.
Pour tout l'été, oui.
Donc il a fallu prévenir tous les parents. Il n'y avait pas de portable à l'époque, 2006. Ça a été très sympathique. Et après, de toute façon, c'était difficile de refaire parce qu'ils auraient refait sauter. On avait 5 hectares à 800 mètres de la plage. Vous voyez ce qu'on peut faire. c'était pas constructible à l'instant, mais je pense que ça va, si ce n'est pas déjà de fait. Donc, 2 mois avant, on a ça. Et 2 mois après, on a cet incendie. Heureusement que j'avais dit à l'assureur qu'avec nous, il n'y avait aucun problème, on n'avait jamais rien. Quand il est venu, quand même, il m'a regardé. Donc, ils ont mis une cause. Donc, avec l'assurance, on a pu refaire cette grande salle. Voilà, c'est... Vous voyez, ma nature est haute. Nous, on a été réveillés par l'explosion d'une bouteille de gaz énorme qui a cassé tous les carreaux et après, les flammes sont montées. C'était énorme, elles dépassaient les toits. J'ai regardé ça avec le pompier parce qu'il m'a dit, bon, on va éteindre, mais ne vous inquiétez pas, on va revenir 2 fois dans la semaine parce que ça va repartir. Bon, très bien. Et pendant que ça brûlait, j'étais en train de me dire, je vais faire quoi à la place?
Donc ça, c'est la base, pour ceux qui ont fait l'énagramme, du bâton.
Je vais faire quoi à la place? Et là, on pouvait se dire, tiens, le bon Dieu, il passe par là pour qu'on fasse cette salle qui, maintenant, on se dit, mais comment on a pu travailler avant sans cette salle?
Petite douceur de la Sainte Vierge dans l'incendie, c'est qu'on avait bâti nous-mêmes, de nos mains, un four à pain, juste adossé à ce bâtiment. Et quand les pompiers sont arrivés, ils ont commencé à faire sauter une par une toutes les tuiles qui étaient sur ce four à pain.
Ils étaient à 30 mètres avec leur lance.
Pour essayer d'éteindre l'incendie qui était derrière. Et donc, Jean-Pierre était là à temps pour leur dire, non mais s'il vous plaît, si on pouvait sauver le four à pain, ce serait merveilleux. Et notre four à pain est sauvé.
Oui, c'est long à faire quand même. Voilà.
Voilà, on va peut-être...
Voilà, je vous laisse, si vous avez envie, voilà, c'est l'espérance, des fois il faut y aller quand même, on ne peut pas, si... C'est Père Marie-Eugène qui disait s'il faut mettre son doigt dans l'eau.
Oui, si on met son doigt dans l'eau et on ressort mouillé, si on met sa main dans le feu, on se brûle, mais si on fait un acte de foi, on touche Dieu. Donc en fait, en faisant un acte de foi... vraiment avec tout notre cœur, on touche vraiment Dieu et il se passe vraiment quelque chose. On en ressort transformé.
Voilà, merci.
Oui.
Merci, le roi Saint-Pierre. Ce message d'espérance, je pense qu'il y a sans doute des questions dans la salle. Tout le monde n'est sans doute pas appelé à... Tu as brûlé la moitié de sa maison, ils ont demandé ce qu'il en fait. Il y a quand même des pépites dans ce que vous nous avez dit. Est-ce que ça peut réagir, interroger, prendre, s'inscrire de Rebelle Chana pour le Rebelle Chana?
Alors, qui reprend le domaine? Nous avons fait une offre publique au mois d'octobre, puisque c'est un domaine associatif. Et donc, nous avons une dizaine de CV. Et dans les 10 CV, il y avait notre fils qui est arrivé à Chadnac à l'âge de 6 mois, il y a donc 33 ans, qui portait dans son cœur ce désir de reprendre le domaine. Nous, on trouvait ça très mignon, très gentil, mais en fait, Chadnac ne nous appartient pas. Et donc, ça se fera comme ça se fera. Si ça doit être ça, ça doit être ça, mais pour... voilà. Donc, ce sont des membres du CA qui ont rencontré les différentes personnes. Et... au départ, on avait une appréhension à ce que ce soit repris par notre fils, parce qu'effectivement, on ne voulait pas que tout soit mélangé. C'est une œuvre, qui est proche du diocèse, qui doit porter du fruit, et donc ça pouvait nous apporter une certaine inquiétude. Mais bon, on a fait la neuvaine à Dondolindo, dont nous vous parlions en boucle pendant plusieurs mois. Et pendant 5 semaines, nous avons vraiment cru que ce serait un autre couple qui serait choisi pour ça. Et donc, on a fait notre travail de lâcher prise totale pour se dire, au mois de septembre, on dira au revoir et on ne remettra peut-être plus les pieds ici. Donc, ce travail de deuil s'est fait pour nous. Et simplement, on a été rappelé par des gens du CA le 21 janvier. On avait dit que la décision se prendrait le 31, donc 10 jours plus tard. Le jour de la Saint-Jean-Bosco, où on avait dit oui quelques années avant. Et ils nous ont dit, écoutez, on sait vos appréhensions, mais après avoir posé les mêmes questions aux trois couples, aux trois couples qui avaient été présélectionnés, en conscience, nous pensons que Jacques et Lison sont les plus préparés à cette mission. Donc c'est donc Jacques et Lison Radiguet qui vont reprendre. Voilà.
Ah oui, on n'est pas fous. Non, c'est pas évident que ce soit vos enfants qui reprennent. Vous voyez, parce qu'il y a un lien quand même affectif et autre. On peut pas dire peut-être toutes les choses qu'on pourrait dire à quelqu'un qui est plus neutre dans la relation. Voilà. Alors l'avantage, c'est qu'il connaît la maison par cœur, il a tout fait, le service, la plonge, la piscine.
Il a connu les deux incendies, voilà.
Voilà, il est né là. Donc voilà, il est ingénieur INSA, il était conducteur de chantier, donc il sait gérer des plannings, c'est un gros bricoleur, voilà, très sportif. Et sa femme est Dupuy aussi, est enseignante. Et ils étaient à Château-Thierry, s'il y en a qui voient où c'est, dans l'Aisne. C'est un joli port de pêche. On n'y va pas par hasard, hein, je vous dis tout de suite. Et ils sont très contents de revenir au puits, quoi. Voilà. Et puis, on passe la main. Il ne travaillera pas comme nous, il fera d'autres choses. Mais dans l'ensemble, ce qui nous rassure, c'est cette foi quand même catholique. Il a vu tout ce qu'on faisait. Et petit à petit, bah, il va prendre son envol. On viendra les aider sur certains stages ou pour qu'ils prennent une semaine de vacances. On fera un effort, hein, chérie.
On en fera.
Parce que Laurent, j'ai dû la tirer à Chanac, vraiment. Et là, je pense que je vais être obligée de...
La tirer dans le sens inverse, bien sûr. Voilà. Je suis quelqu'un qui n'aime pas partir.
Voilà. Merci à vous.
J'ai une question pour vous. Vous vivez ensemble, évidemment, mais on continue, vous travaillez ensemble, vous faites face avec vos difficultés ensemble. Comment on fait pour durer ensemble, pour se ressourcer en couple quand on est autant dans...
Alors, je pense que la chance qu'on a à Chadnac, c'est qu'il y a énormément de choses différentes à gérer et qu'on avait chacun notre domaine. Moi, je me suis beaucoup occupée de ce qui était l'accueil et tout l'opérationnel qui est lié à l'accueil, l'économat, la gestion du personnel, le recrutement, etc. Et Jean-Pierre, je dois quand même le souligner, est depuis 12 ans bénévole à mes côtés, puisqu'il a pris sa retraite en 2012. Et donc, lui, il avait un autre secteur, tout ce qui est travaux, tout ce qui est entretien... on a développé un jardin potager bio,
la piscine.
Et avant qu'il soit, à la retraite, eh bien, il avait vraiment son secteur qui était vraiment plus l'association UCPCV, les camps en Corse, toutes les maisons, etc. Et moi, plus sur le côté accueil. Voilà.
Et avant, pour finir, je voulais surtout pas travailler avec ma femme. J'avais des amis qui sont pharmaciens, qui sont commerçants et travailleurs. Je dis non, c'est pas possible, faut faire couper. Il y a le professionnel d'un côté et autre. Et vous voyez, on a chacun notre bureau, chacun avec son source internet différente, chacun son photocopieur, chacun sa vie. Mais voilà, on arrive à... Alors, ce qui nous lie aussi beaucoup, c'est ce temps d'horizon qu'on essaye de prendre ensemble. Mais même si on ne prend pas ensemble, ça nous lie. Voilà, puis notre maison en Ardèche, on part en vacances ensemble. On passe quand même beaucoup de temps ensemble. Mais c'est vrai que ça m'a pas inquiété, mais je me suis dit, bon, est-ce que ça va marcher? Travailler avec son épouse, c'est pas toujours évident.
Alors. Je voudrais juste rajouter une petite chose qui me semble vraiment carrément capitale, c'est qu'on a vraiment veillé à prendre des vacances seulement tous les deux, plusieurs fois par an. Et donc, on a vraiment eu des vrais temps de ressourcement avant d'être H24 avec... parce que la saison d'été, c'est redoutable. C'est vraiment H24. On dit au revoir à plein de personnes à 10h le samedi et on dit bonjour à plein d'autres à 17h le même jour. Donc, c'est vraiment... c'est costaud. Donc, avec Dieu, on y arrive, mais on n'a pas beaucoup de provisions. Voilà.